Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Coup d'envoi l'été prochain en France du cannabis thérapeutique pour une période de 2 ans pour soulager les patients avec des douleurs chroniques. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale. En Europe, 21 pays sur 28 l'autorisent déjà. C'est le cas en Suisse où la prescription du cannabis à des fins médicales est autorisée depuis 2011. À Genève, une maison de retraite a d'ailleurs décidé d'utiliser les vertus apaisantes de la plante sans ses effets psychotropes et les résultats sur quelques résidents triés sur le volet sont très encourageants. C'est le reportage de Jérémy Lanche.
Hey, bonjour. Bonjour,
monsieur. Vous êtes beau.
Ah, je vous remercie, madame. Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va?
Je la fais aller.
Bon.
J'ai sommeil.
Mais reposez-vous, c'est pas un problème. Allez, à tout à l'heure.
Tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'est un fait, James Vanfleur a un succès fou auprès des résidents des Tilleuls. Le directeur de cette maison de retraite met un point d'honneur à traiter les personnes âgées avec le maximum de bienveillance. Et c'est cette bienveillance qui l'a conduit à introduire l'usage du cannabis thérapeutique.
Nous avions une résidente où nous étions dans une impasse thérapeutique, où les médicaments habituellement utilisés n'avaient aucun effet sur des crises, sur des manifestations d'agitation. Nous avons eu l'idée de demander l'autorisation pour essayer un traitement de cannabis. Puisque c'est un produit qui a un taux de THC supérieur à 1%, donc il est considéré en Suisse comme un stupéfiant. Et nous avons eu besoin pour cela d'une autorisation exceptionnelle de l'Office fédéral de la santé publique.
L'autorisation délivrée, l'équipe médicale cible une douzaine de patients résidents, tous atteints de troubles cognitifs sévères et pour lesquels les traitements médicamenteux n'étaient pas satisfaisants. En décembre 2017, une étude est lancée pour 6 mois. Le bilan dépasse vite les espérances. Aurélie Revol est psychomotricienne au Tilleul.
On a pu voir un gain au niveau de la mobilisation, plutôt des membres supérieurs. Mais là où c'est les effets les plus spectaculaires, c'est pour les personnes qui avaient des troubles du comportement. Je pense à plusieurs dames qui étaient complètement repliées sur elles, qui s'enfermaient dans la chambre, qui refusaient absolument tous les soins, qui fermaient la porte. Et suite au traitement, elles ont commencé à s'ouvrir, à accepter que la personne vienne pour la toilette. Elles ont commencé à chercher des interactions sociales avec les autres résidents, avec les soignants, à accepter de toucher.
Reste que le cannabis est d'abord perçu comme une drogue, d'où un effort de pédagogie de la part de la direction au moment de proposer le traitement aux familles. Mais là, surprise, aucune n'a pris peur, c'est même tout l'inverse.
Le médecin, quand il présentait le traitement, s'attendait à avoir beaucoup de réticences et devoir argumenter, et les gens, d'emblée, acceptaient le traitement. Mais finalement, quand on comprend un peu l'histoire de vie et que les familles, pendant des années, accompagnent la personne malade, arrivent en institution avec ce sentiment de culpabilité, d'abandonner ses parents, donc ils sont pris dans ce vécu très douloureux de la maladie, et enfin, là, l'institution vient proposer quelque chose, alors que les traitements ne fonctionnent pas. On tente quelque chose pour des personnes qui sont vues comme les laissés pour compte de la société et de la recherche médicale.
Du côté des familles, on est effectivement ravis. Roland et Claude rendent visite quasiment chaque jour à leurs épouses. Ils les sentent transformés.
Je n'ai pas hésité une seconde. Ça l'a calmé. Parce que de temps en temps, elle s'énervait comme ça. Je trouve ça génial.
Pour ma femme, ça a été formidable. Elle se remet à gazouiller un petit peu, qu'elle ne disait plus rien du tout. Je ne sais pas si elle revit, mais c'est extra.
Amélioration de l'état général, diminution des raideurs, augmentation de l'appétit. Les soignants sont unanimes. Le traitement a énormément d'avantages et aucun effet secondaire. Le risque d'accoutumance est lui quasi nul car les doses sont hyper contrôlées. Et pourtant, beaucoup de professionnels sont encore réticents à prescrire du cannabis. Un blocage idéologique plus que scientifique, selon Christian de Saussure. C'est le médecin de la maison de retraite.
On en est aujourd'hui avec le cannabis comme on l'était il y a 30 ans avec la morphine. Et je me rappelle de congrès en France où on était hués par des confrères qui pensaient qu'on était des dealers. Aujourd'hui, c'est pratiquement généralisé partout. Et ce sera certainement la même chose avec le cannabis.
Parfait. On arrive depuis hier. Depuis hier soir, j'étais là.
En diminuant les médicaments.
Mais le cannabis thérapeutique n'est pas l'alpha et l'oméga du traitement au tilleul. Moins de la moitié des résidents en bénéficient. Réduire la dose de médicaments aux effets secondaires trop lourds suffit parfois à améliorer l'état de santé. Le directeur James Vanfleur le dit volontiers, le cannabis n'a pas vocation à être proposé à tous les résidents.
À partir du moment où d'autres molécules donnent satisfaction, on n'est pas prosélyte et notre but, ce n'est pas simplement de dire il faut que tout le monde passe au cannabis parce que c'est super le cannabis. On est dans une démarche qui est médicale, médico-infirmière. On essaye de faire en sorte que la personne reçoive le bon traitement que le traitement qu'elle ait, quelles que soient les molécules, soit adapté, bien dosé, et lui permettre de vivre le plus confortablement possible.
Les Tilleuls ne devraient pas rester longtemps la seule maison de retraite à proposer du cannabis. Des établissements en Suisse et même en France ont déjà pris contact avec la direction. Le gouvernement suisse vient lui de proposer de simplifier l'usage du cannabis à des fins médicales. Si le texte est approuvé, les médecins pourront en prescrire sans autorisation préalable.
Et pour offrir ce cannabis thérapeutique, il faut bien le produire dans les Balkans, en Macédoine du Nord. C'est la ruée vers l'or vert. Le gouvernement fait tout pour favoriser la culture et l'exportation du produit. Le milliardaire américain du cannabis, Mike Stromietis, est même venu à Skopje pour donner des conseils. Mais le marché n'est pas encore fluide, les stocks s'accumulent et avec eux, les risques de contrebande et de corruption. C'est le reportage à Copier de Simon Rico.
L'odeur très forte et saisissante avant même d'avoir franchi les hautes grilles surmontées de fils barbelés qui barrent l'entrée du site de la société Cannabis Pro. En ce début d'automne, les 20 employés s'activent sur les 14 000 mètres carrés de l'exploitation située dans les environs de Stroumitsa, près de la frontière bulgare. Les milliers de pieds de cannabis sont arrivés à maturité, il faut vite les couper et les sécher. Pour le patron Dragan Georgiev, ancien député du Parti social-démocrate au pouvoir, la Macédoine du Nord est un bon endroit pour développer une filière du cannabis.
Il y a vraiment de très bonnes conditions pour la culture du cannabis en Macédoine. C'est très ensoleillé, il fait chaud et il y a peu de pluie et donc peu d'humidité. On peut donc obtenir partout des fleurs de cannabis d'excellente qualité.
La Macédoine du Nord autorise depuis 2016 la culture du cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, 23 entreprises ont obtenu la licence pour se lancer dans ce nouveau business et une quinzaine d'autres attendent la validation de leur dossier. Dans le petit pays d'1,5 million d'habitants, où le salaire moyen dépasse à peine les 300 euros, beaucoup veulent croire que le cannabis sera bientôt le principal produit d'exportation. Ancien consultant pour le ministère des Finances, Yanis Sevdinsky a investi 500 000 d'euros dans ce business. Il n'a pas encore effectué sa première récolte, mais espère déjà être bénéficiaire d'ici 3 ans.
L'ensemble des exportations macédoniennes de vin, de fruits et de viande d'agneau atteint en gros 60-70 millions d'euros par an, selon les statistiques officielles. Or, si tous les investissements promis dans le cannabis voient effectivement le jour, les exportations de cannabis pourraient bientôt rapporter plus de 100 millions d'euros. Si le gouvernement avait bien en tête tous ces chiffres, je crois qu'il ferait tout pour que ce business fonctionne comme il faut.
Au printemps 2019, une association des producteurs macédoniens de cannabis a vu le jour pour faire du lobbying. À sa tête, Kostadin Dukovski, qui s'est lancé dans cette affaire en parallèle de son entreprise de consulting. Réputé proche du Vömero d'Upamenöe, le parti nationaliste conservateur anciennement au pouvoir, il fait jouer ses nombreux réseaux pour développer le cannabis thérapeutique, tout en se disant très confiant sur le soutien des autorités. Certain que la Macédoine du Nord a les moyens de devenir l'un des leaders européens de ce marché en devenir, Kostadin Dukovski voit déjà les choses en grand.
L'un des développements que l'on imagine pour notre activité, c'est par exemple d'ouvrir quelques hôpitaux où l'on pourrait traiter les malades grâce au cannabis, à l'huile de cannabis. Et l'on aurait des résultats probants. J'espère donc que l'on pourra mener à bien ce projet. Cela demande beaucoup d'argent et nous espérons que le gouvernement et les investisseurs ont conscience de ce potentiel. Cela pourrait passer par un partenariat public-privé.
Wow. What an incredible journey heading back to Frankfurt. I already miss North Macedonia.
À la fin du mois d'août, le premier ministre macédonien Zoran Zaev a reçu Big Mike, le fameux milliardaire américain du cannabis. Une rencontre médiatisée par le Mania sur Instagram, mais dont rien n'a filtré et qui suscite beaucoup d'interrogations dans le petit pays, alors que plusieurs proches de Zoran Zaev se sont lancés dans le cannabis thérapeutique peu après son arrivée au pouvoir en 2017. La juriste Slajana Taseva, qui dirige l'antenne macédonienne de Transparency International, critique l'opacité dans laquelle la législation sur le cannabis a été modifiée par la majorité actuelle.
La seule chose que nous ayons entendue, c'est que le gouvernement soutenait cette réforme parce qu'elle était bonne pour la croissance économique du pays. Cela nous a surpris, mais ce qui nous a encore plus surpris, c'est que les premières sociétés qui ont obtenu le droit de se lancer dans cette activité, de produire et de vendre du cannabis, appartenaient toutes à des proches du Premier ministre ou du parti au pouvoir. Pour moi, en tant que spécialiste de la lutte contre la corruption, cela montre qu'il y a un problème.
Pendant que les débats s'éternisent, les stocks s'accumulent en Macédoine du Nord. Leur valeur dépasserait déjà les 60 millions d'euros. La plupart des producteurs locaux se sont en effet lancés dans la culture du cannabis sans avoir les moyens d'en extraire l'huile, le seul produit aujourd'hui légal, et sans pouvoir exporter dans l'UE, faute de respecter les normes requises. Une situation qui surprend et inquiète le journaliste d'investigation Vladko Stoyanovski.
Dans de nombreuses sociétés, les institutions compétentes, principalement le ministère de la Santé, n'ont pas effectué les contrôles nécessaires malgré les dispositions légales qui les prévoient. Beaucoup de sociétés vous confirmeront qu'elles n'ont jamais été contrôlées.
Dans une Macédoine du Nord gangrénée par la corruption et plusieurs fois épinglée par l'Union européenne pour la faiblesse du contrôle de ses frontières, beaucoup craignent que ces nombreux stocks à haute teneur en THC, le psychotrope que recherchent les consommateurs, ne finissent sur le marché noir. Un risque sérieux alors que le pays est considéré comme une plaque tournante de la route de la drogue qui file d'Afghanistan jusqu'en Europe de l'Ouest.
Et aux Pays-Bas, c'est la légalisation de la production du cannabis qui est dans les cartons du gouvernement de centre-droit Mark Rutte. Une manière de couper l'herbe sous le pied des trafiquants et des réseaux criminels. Une première expérience doit débuter dans plusieurs villes du pays qui commercialiseront un cannabis produit sous le contrôle de l'État. Les explications d'Antoine Moutot.
Plus d'une vingtaine de villes néerlandaises s'étaient manifestées pour participer à l'expérience. Finalement, au cours de l'été dernier, seules 10 d'entre elles ont été désignées par une commission spéciale. À partir de 2021, les communes choisies pourront organiser elles-mêmes la vente d'une drogue d'État, du cannabis produit directement par les autorités néerlandaises. Plusieurs serres du pays devront servir à la production strictement supervisée par l'État. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement qui pourra en produire, mais une ébauche du projet actuel évoque la possibilité d'une dizaine de producteurs triés sur le volet. Pendant une première période de 4 ans, le gouvernement livrera lui-même les communes sélectionnées. Il doit ainsi contrôler plus facilement toutes les étapes de la production à la commercialisation. Parmi les villes choisies pour l'expérience, on trouve plusieurs communes proches des frontières belges et allemandes, comme Breda, Tilbourg, Arnhem et Nimègue. Là-bas, depuis longtemps, les nuisances liées au tourisme de la drogue sont un véritable casse-tête pour les autorités locales. Les ressortissants des pays proches, notamment des Belges, des Français et des Allemands, font spécialement la route jusqu'aux Pays-Bas pour venir y consommer du cannabis. C'est pour cette raison qu'en 2012, plusieurs villes frontalières comme Breda et Tilbourg avaient décidé de fermer leur coffee shop aux voyageurs étrangers. Entre-temps, Tilbourg, elle, est revenue sur sa décision. À Breda, en raison d'importantes pertes financières, les coffee shops tentent toujours de faire pression sur le maire pour un retour en arrière, mais en vain. Sur le cannabis d'État aussi, les inquiétudes des coffee shops sont grandes. Nombre d'entre eux craignent de perdre le contrôle de la vente, mais aussi que la drogue d'État soit moins forte et moins attractive que celle qu'ils vendent pour l'instant. L'idée sur le long terme est de faire fortement baisser la criminalité car pour l'instant aux Pays-Bas, malgré l'image d'un pays très ouvert sur la question des drogues, la situation est toujours très ambiguë. La vente de cannabis est tolérée, les fameux coffee shops peuvent en vendre aux clients sans être inquiétés. En revanche, là où ça se complique, c'est que la production et la fourniture, elles, sont interdites. Tout ce qui se passe derrière l'arrière-boutique du coffee shop est ainsi illégal. C'est donc la plupart du temps des réseaux criminels qui s'en chargent. Les Pays-Bas sont ainsi depuis plusieurs années en prise avec d'importants groupes de narcotrafiquants de plus en plus violents. Et il faut dire aussi que le gouvernement actuel est partagé sur la question de la légalisation. Pour le VVD, le parti majoritaire de droite libérale du Premier ministre Mark Rutte, chacun est responsable de sa propre santé. La légalisation est donc logique. Pareil pour le parti libéral des SNZester, très engagé sur ces questions. Les formations chrétiennes du CDA et de la Christen Unie, elles, y sont farouchement opposés.
Et pour notre chronique en un mot, nous avons choisi un mot dont on a beaucoup entendu parler ces trois dernières années. Ce n'est pas fini. Il s'agit du Brexit, donc littéralement une contraction entre Britain et Exit, sortie. Mais c'est un peu plus compliqué, Marie Billon.
Brexit beckons, Brexit betrayals, Brexit bills. Brexit Block.
Ce que vous entendez, c'est une œuvre d'art, celle de Simon Roberts, appelée Brexit Lexicon. Cet artiste britannique a compilé un lexique des expressions du Brexit entendues et lues dans les médias. Il a ensuite demandé à un présentateur de journal télévisé de les lire toutes.
Brexit Death Wish.
Well, a lot of it's about repetition.
Je voulais montrer le côté répétitif et à quel point, surtout mis à la suite, les phrases se contredisent. J'ai recensé près de 100 utilisations du mot Brexit. Fuite des cerveaux due au Brexit, les expatriés du Brexit, le Brexit a cassé le Parlement, le Brexit bus, le car crash du Brexit, le Brexit clash, le Brexit propre, la lâcheté du Brexit, l'impasse du Brexit.
Un mot qui ne craint pas les contradictions, donc y compris la plus fondamentale. Le Brexit est une création européenne qui nous vient de Grèce. La linguiste Lise Fontaine nous explique son origine étymologique.
Le mot Brexit était basé sur le mot Grexit, la crise financière de la Grèce. En 2012, 13, 14, tout ce qu'on disait à l'époque, c'était à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Sur des blogs, sur Twitter, dans les journaux. Tout le monde n'était pas d'accord pour comment on l'écrit. La partie exit est claire, mais la partie au début, est-ce que ce sera plutôt BRI pour Britain ou bien BR, ça suffit, et exit.
On a donc échappé au Brexit. Brexit, hein, ce sera donc, mais pour la linguiste, ce mot n'a pas une définition assez claire et précise, alors on lui attache des qualificatifs. Et toutes les interprétations, voire les manipulations, sont alors possibles.
Donc, il s'essaie de trouver des mots qui ont plus de positivité. Par exemple, si on compare hard Brexit et clean Brexit. En fait, finalement, ça veut dire la même chose. Complètement couper les liens avec l'Europe. Mais la connotation que ça évoque, c'est pas du tout la même chose. C'est une manipulation.
Des qualificatifs qui sont censés nous éclairer sur la teneur de ce Brexit dont finalement on ne connaît pas le sens, selon le lexicologue Tony Thorne.
Je crois que les gens ne savent toujours pas ce que ça veut dire. Brexit, c'est un mot familier, mais si on leur demande qu'est-ce que c'est, quels sont ses effets, qu'est-ce que ça implique, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, ce sont pourtant des questions légitimes pour la plupart des mots importants.
Mais ça n'empêche pas les gens et les politiques de les utiliser, au contraire, peut-être même, se dit Tony Thorne.
Politicians use slogans. Les politiques emploient des slogans parce que c'est un moyen facile d'attirer l'attention du public, de ceux qui ne sont pas les experts du domaine. Brexit signifie Brexit, c'est une phrase que Theresa May n'a pas été la première à employer, mais qu'elle a répétée et répétée. C'est le genre de phrase qui met fin à la conversation. C'était le but, clore le débat, limiter la conversation à des clichés. Et le public répète ses slogans, on les entend partout ensuite, au téléphone, au pub, dans la famille. Mais ils n'ont aucun sens, ce sont des petits paquets de propagande, ils n'aident pas les gens à comprendre ce qui se passe.
Help people to grasp what is really going on.
Puisque Brexit n'a de sens que celui qu'on veut bien lui donner, les Britanniques en ont profité pour lui attacher aussi des suffixes divers et variés. Brexiteers, qui rappellent Musketeers, les mousquetaires, les preux et courageux pro-Brexit, ou Brexhausted, une fatigue exclusivement liée au Brexit. Tony Thorne a mis de côté plus de 500 nouveaux mots liés au Brexit depuis l'été 2018, et selon lui, le problème, c'est que tout le monde ne saisit pas le sens de toute cette nouvelle terminologie, une raison de plus pour laquelle les Britanniques ont du mal à se comprendre depuis le vote du Brexit.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Dans quelques instants, un point sur l'actualité sur RFI. RFI.